protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.
Bonjour à tous, je reçois Nirina Ratefi, qui est pasteur d'une église de Montpellier, l'église Clé, qui est une église évangélique. Alors, bonjour Nirina.
Bonjour Yolande.
Alors, je vais vous poser un certain nombre de questions sur votre parcours personnel et puis après, on parlera de votre église. Mais d'abord, votre parcours personnel, puisque c'est ce que nous faisons ici, à un protestant peut en cacher un autre. On essaye d'avoir des parcours différents de gens qui ont un rapport avec le protestantisme. Alors vous, c'est votre cas, puisque non seulement vous êtes dans le protestantisme, mais en plus vous êtes pasteur. Alors tout d'abord, avez-vous un héritage protestant ou êtes-vous venu au protestantisme plus tard ?
Alors j'ai un héritage protestant. J'ai grandi dans une famille qui sont protestants. Mes parents sont protestants. Mes grands-parents protestants aussi. Alors j'ai grandi au sein de cette foi protestante, de cet héritage protestant, et j'ai vu ma grand-mère pratiquer sa foi, qui aimait la parole, qui aimait prier, et j'ai grandi vraiment à ses côtés, et j'ai vu comment elle pratiquait sa foi, et ça m'a comme impactée. Et petite, quand j'avais des soucis, je lui parlais et souvent, elle m'a répété souvent, « Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toute chose te sera donnée par-dessus. » J'ai entendu cette parole maintes et maintes fois en étant petite. Et quand je suis arrivée en France, quand j'ai entendu cette parole a comme pris vie en moi. Et à ce moment-là, c'était vers l'année 90, cette parole m'a parlé dans le cœur et là, j'ai donné ma vie à Jésus.
Parce que vous venez de Madagascar.
Oui, je suis originaire de Madagascar et je suis venue en France pour faire mes études, pour continuer mes études, parce que j'ai obtenu à Madagascar le diplôme d'ingénieur des mines. J'ai étudié tout ce qui est minerais, comment extraire les minerais sous la terre. J'ai étudié les pierres précieuses. J'aimais beaucoup les pierres. Étant enfant déjà, j'ai aimé les cailloux, les pierres. J'étais fascinée par les cailloux, par les pierres. Et j'en ai fait mes études. Et je suis venue en France pour continuer mes études. Mais Dieu en a décidé autrement quand je suis venue. Vers l'année 1999, pendant ma prière personnelle du matin, je reçois dans mon cœur Ézéchiel 3. Je suis allée lire Ézéchiel 3, verset 10, qui dit « Reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles ». Et ce jour-là, je savais que je devais aller à l'église et je savais dans mon cœur que je vais entendre Dieu me parler. Et effectivement, ce jour-là, il y avait un pasteur qui a pris exactement le même texte que j'ai lu au petit matin dans ma prière personnelle. Et là, il a prêché sur Ézéchiel 3. Et dans mon cœur, ça brûlait, ça me parlait. Et à une semaine d'intervalle, une semaine après, ça c'était sur Paris. Et quand j'étais venue une semaine après sur Saint-Malo, le pasteur a exactement pris le même message, Ézéchiel 3. Et ça me parlait. Une fois de plus. Donc pour moi, c'était une confirmation de l'appel de Dieu en tant que pasteur.
Et donc, vous avez laissé les mines, toute la géologie, les cailloux et tout ça, vous n'en faites plus du tout?
Non, pas du tout. Alors, vous savez, à ce moment-là, c'est comme si, comme j'ai aimé les pierres précieuses, les perles, c'était vraiment... un amour, j'aimais étudier ça. Et comme si j'entends Dieu me parler dans mon cœur, maintenant tu vas t'occuper des pierres vivantes.
Alors justement, je voulais vous poser la question, quelle est votre motivation première en tant que pasteur? Donc vous l'avez très bien dit, vous avez entendu l'appel de Dieu, donc vous avez répondu à cet appel pour le servir. Et il y a aussi l'idée de servir les autres. Qu'est-ce qui est prioritaire? Servir Dieu, servir les autres? Comment vous définissez un peu, comment vous définissez ça?
Oui. Alors pour moi, la première motivation, c'est de servir Dieu qui découle spontanément dans servir l'autre, servir mon prochain. Parce que je peux servir mon prochain avec l'amour que Dieu me donne. Et ce qui me motive, c'est être auprès de mes prochains, d'être à leur service, de les servir. Et justement, en fait, dans mes études, le titre de ma mémoire d'études, de fin d'études, c'était « Débourbage du graphite », c'est-à-dire ouh, comment enlever la boue sur le minerai pour en extraire le bon de ce minerai. Et ce que je fais actuellement, justement, dans l'accompagnement des gens, c'est de comme les aider à enlever tout ce qui était comme peut-être des bouts dans leur vie pour extraire, pour qu'ils se reconnectent à eux-mêmes. Voilà. Et j'aime accompagner les gens, être à leur écoute et de pouvoir prier pour eux et de pouvoir cheminer un temps avec eux pour qu'ils soient épanouis dans leur vie.
Et dans l'écriture, bon, là vous avez très bien défini ce qui vous poussait. Dans les écritures même, il y a des passages qui vous motivent plus que d'autres. Bon, vous avez parlé d'Ézéchiel. Est-ce qu'il y a d'autres passages qui sont importants pour vous? Quels sont les messages plus particulier qui vous pousse?
Alors, j'aime la parole. J'aime parce qu'on découvre des trésors dans la parole. On découvre des pépites.
Alors là, on est dans la géologie, dans les pierres.
Effectivement. Mais c'est, voilà, c'est de pouvoir creuser, en fait, ouais, la parole et de découvrir des pépites de la parole qui comme prennent vie en nous et qui nous parlent directement. Et j'aime voir les caractères de Dieu, de découvrir, en fait, son amour, de découvrir ses différents noms. Qui parlent, qui nous parlent, qui peuvent être vraiment dans notre quotidien, qu'on peut s'accrocher à ce nom de Dieu parce qu'on découvre qui il est. Il est ce Dieu tout-puissant, il est ce Dieu d'amour et il est ce Dieu qui nous protège aussi. Son nom, Yahvé Nissi, celui qui nous protège, et il y a plusieurs noms.
Vous êtes plutôt vous décrivez plutôt le Dieu de l'Ancien Testament avec tous ses noms, avec tous ses. Oui. Vous parlez d'Ézéchiel. Oui. Vous êtes très axé sur la Première Alliance. Je préfère dire Première Alliance
que. Première Alliance, oui. Mais la Première Alliance, en fait, ça préfigure Jésus. Comme par exemple, oui, effectivement, en parlant par exemple de Moïse qui est le libérateur. Et en fait, c'est Jésus-Christ, ça préfigure l'image de Jésus-Christ. Et effectivement, j'aime découvrir dans la parole qui est Jésus-Christ. Tout au long de la Bible, en fait, ça va vers Jésus-Christ pour parler de Jésus-Christ, comme aussi Joseph, qui a été vendu par ses frères. Et c'est ça préfigure Jésus qui a été vendu aussi, mais pour nous sauver.
Alors Joseph, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, ce n'est pas le Joseph de Marie dont on parle, mais c'est le Joseph qui est parti en Égypte à la suite de famine, enfin qui a été vendu par ses frères et puis qui a donné la lignée de Moïse ensuite. Alors,
Oui, c'est ça. Et du coup, Joseph, en étant vendu, il a, au travers de cela, en fait, il a pu sauver sa famille de la famine. Et c'est l'image, en fait, de Jésus qui a sauvé l'humanité par sa venue sur terre et qui a sauvé chacun, chacune de nous aussi.
Et donc, ce message, vous le trouvez tout au long de l'Évangile, tout au long de la Bible. Il n'y a pas des passages plus difficiles, plus qui vous rebutent. Il n'y a pas des choses compliquées ou qui n'ont pas de sens pour vous.
Pour moi, la Bible, il y a un sens pour tout. Mais c'est vrai que, par exemple, quand on va lire dans les Lévitiques, c'est un peu dur. Mais ça a son sens. Mais c'est vrai que c'est pas un livre où on va spontanément
lire. Non.
Voilà.
J'ai un jeune pasteur qui me disait qu'il avait lu toute la Bible en un an. Il l'avait lu deux fois et je lui ai demandé, mais vous avez tout lu, même le nombre lévitique, Deutéronome? Il me dit oui. Ben, je lui dis chapeau parce que il faut avoir du courage.
C'est ça. Il faut s'accrocher.
Il y a un sens pour vous.
Il y a un sens pour tout, oui. La parole a un sens. Mais c'est là qu'il faut justement y aller, découvrir, prendre le temps de lire. Et des fois, par exemple, même un verset qu'on a déjà lu, qu'on n'a pas compris, à un certain moment, ça va nous parler plus, parce qu'il y aura la révélation à ce moment-là, la même phrase qu'on a pu lire.
Et alors, pour lire la Bible, vous avez le soutien de votre foi, mais vous avez aussi des études par derrière. Vous avez refait de la théologie et vous suivez des formations, notamment à la Fédération protestante. Vous pouvez en parler. Qu'est-ce qu'on vous apprend dans ces formations? Sur quoi on met l'accent?
Alors, moi, j'ai fait ma formation avant de devenir pasteur. J'ai fait une formation, j'ai suivi une formation au ministère dans le réseau où nous sommes, qui s'appelle RNC, qui est dans le CNEF, d'ailleurs, qui est dans la fédération FPF.
Alors, on va définir tout ça, parce qu'il y a des auditeurs qui ne sont pas protestants et qui ne connaissent pas tous les sigles. Alors, est-ce qu'on peut reprendre et puis définir?
Entendu. Alors, le RNC, c'est le réseau national, réseau Nouvelle Connexion, là où nous sommes, où nous faisons partie, qui est elle-même, le réseau est lui-même dans le CNEF, qui est le Conseil National de CNEF des évangéliques de France.
D'accord.
Voilà, qui est lui-même dans la fédération FPF, Fédération protestante de France.
Voilà, alors la Fédération protestante de France, je pense que beaucoup de gens connaissent, c'est la fédération qui rassemble les églises, disons, traditionnelles, historiques françaises, luthéro-réformées, dont les PUDF principalement, et puis certaines églises évangéliques qui ont accepté de collaborer. Alors, dans la Fédération protestante de France, il y a par exemple des églises comme l'Armée du Salut, les Adventistes du septième jour, et cette fédération a élaboré des chartes de bonne conduite, notamment de respecter les différences, parce qu'il y a des différences entre les sensibilités plus traditionnelles et puis les sensibilités évangéliques. Mmh. Ça, c'était un aparté donc pour les auditeurs. Mmh. Alors, vous pouvez continuer à décrire.
Donc pour la formation, il y a pas longtemps, justement, il y a un mois de ça, j'ai pu assister à une formation sur les violences sexuelles, les violences spirituelles dans le protestantisme. J'ai pu assister et c'était riche. Il y avait une équipe qui intervenait, mais plusieurs personnes qui ont assisté. Et c'était pour moi une richesse d'être là avec différentes dénominations.
Oui.
Mais c'était riche de pouvoir se former pour justement amener ça dans l'église où nous sommes.
Oui, parce que vous bénéficiez donc de l'accompagnement de professeurs de théologie.
Exactement.
Et puis, il y a toutes les différences entre ces courants protestants, puisqu'il y a beaucoup de courants protestants.
Tout à fait.
Et le but, c'est de se comprendre, même si on ne partage pas toujours les mêmes choses. Et ça, vous le ressentez dans les...
Oui, exactement. Moi, je trouve que c'est important que même différentes dénominations, on puisse être là ensemble pour se former dans le même but, en fait, de pouvoir pouvoir vivre et accompagner ce que Dieu nous confie.
Et vous avez donc des séances de formation souvent. Comment vous êtes formé au niveau théologique? Vous faites aussi des sessions en été. Enfin, vous avez des différentes manière?
Oui, alors dans le réseau où nous sommes, nous faisons des formations justement qu'on appelle université d'été. Chaque été, il y a des formations prévues pour ceux qui sont appelés au ministère.
Et ces formations, donc, c'est du niveau de la des formations de théologie qui se font dans les instituts protestants de théologie.
Exactement, c'est ça. Oui.
Alors, on va parler de votre église, donc qui est l'église clé. Mais avant, je voudrais qu'on passe à un morceau de musique. C'est vous qui l'avez choisi. Ça s'appelle Dans mon âme, un beau soleil brille. Vous allez nous dire pourquoi vous avez choisi ce morceau.
Alors, c'est le fait que Jésus, il vit en nous, il est là, dans mon cœur, et c'est lui qui apporte la lumière. Jésus, il est la lumière du monde. Et le fait de l'avoir dans son cœur, de se savoir aimé de Dieu, de se savoir enfant de Dieu. Donc, quel que soit ce qui peut se passer à l'extérieur, il y a ce soleil qui brille, qui brillera toujours dans mon cœur. Et je voulais partager avec les auditeurs.
Eh bien, je pense que les auditeurs seront sensibles. On va écouter ce morceau.
Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme. Et je vais chantant partout. Dans mon âme, beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille. C'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il est clair, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme. Et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres. Quand parut un jour nouveau. Au loin, devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme. Et je vais chantant partout.
Alors maintenant, Nirina, je voudrais qu'on élargisse sur votre église. Donc, l'église clé à Montpellier, vous êtes combien de personnes ?
De membres, oui. De membres, vous voulez dire ? Nous sommes dans les 250 membres.
Oh, c'est beaucoup, ça.
Oui.
Et les gens participent régulièrement ?
Il y a des gens qui viennent pas régulièrement, mais ils font partie de l'église. Mais autour, chaque dimanche, on est autour quand même de 150 par là qui viennent régulièrement. C'est pas les 250 qui sont là régulièrement, mais ils sont membres de l'église.
C'est impressionnant. Et alors, les formes du culte, comment ça se passe, un culte chez vous? Est-ce que vous pouvez le définir, nous raconter comment ça se passe?
D'accord. Alors, le culte, avant que le culte ne commence, toutes les équipes qui sont de service ce dimanche matin, on se voit, on prend un temps ensemble pour prier ensemble. C'est-à-dire ceux qui sont dans la louange, l'équipe de louange, ceux qui sont dans l'équipe d'accueil, ceux qui sont dans la sono, dans la technique, et la personne qui va présider le culte et la personne qui va apporter le message, on se retrouve avant le culte pour prendre un temps de prière. Et après, une fois, on prend une demi-heure pour prier ensemble, et après, chacun reprend leur poste. Et le culte, on commence, il y a l'équipe d'accueil qui accueille. Ceux qui partent des cafés, ceux qui arrivent. Et on commence par la louange. Il y a une personne qui préside le culte, qui accueille les gens et qui redonne le micro, en fait, au groupe de louange. Il y a une personne qui conduit la louange avec toute une équipe. Après, nous avons les offrandes pendant le culte.
Oui.
Les offrandes, les annonces de ce qui se vit dans la semaine.
Ouais.
Et après, il y a celui qui va apporter le message, le prédicateur
la
ou la prédicatrice. Mmh. Voilà.
Et la prédication, c'est un texte biblique, une explication d'un texte biblique.
Oui, c'est ça. En fait, l'équipe pastorale prenne toujours un temps de retraite, par exemple, avant la rentrée, et prie ensemble pour recevoir, pour demander à Dieu la direction de comment on va, qu'est-ce qui doit être partagé pour l'Église. Et à ce moment-là, soit on fait une série de prédications, et chaque pasteur qui va prêcher va s'appuyer sur ce thème-là.
Par exemple, on peut donner un exemple de thème
De thème. Alors, le thème récemment, là où nous en sommes en ce moment, c'est « Monte ici ». C'est qui se trouve dans Apocalypse, c'est-à-dire c'est Dieu qui parle à Pierre, à Pierre, à Jean.
Oui, c'est
à Jean.
Oui,
c'est Dieu qui appelle Jean de monter ici. Oui. C'est d'être dans sa présence pour qu'il puisse montrer quelque chose du ciel, en fait. Et nous sommes dans ce thème-là en ce moment. C'est-à-dire que, comme pour encourager, nous sommes en train d'encourager l'Église d'aller plus loin avec Dieu, d'aller plus loin dans la parole, dans cette intimité avec Dieu, comme pour grandir, comme un enfant qui est bébé, qui va grandir, qui va devenir... un enfant n'est pas fait pour rester bébé, mais il est amené à être enfant, adolescent et adulte. Et c'est dans ce sens, en fait, ce thème de monte ici, pour avoir des... Parce que Jésus nous a dit de faire des disciples et pour avoir des disciples matures, mûrs.
D'où l'importance de l'enseignement, de la prédication, de l'étude des textes. Alors, je voudrais qu'on arrive aux relations avec les autres églises. Donc, vous faites partie de la Fédération protestante de France. On a vu que ça vous apportait au niveau des au niveau de la formation, au niveau de... Est-ce que ça vous apporte au niveau des relations avec les autres églises? Ou est-ce qu'il y a un manque? Est-ce que vous aimeriez que ça aille plus loin?
Alors, notre église fait partie de la pastorale de Montpellier, qui regroupe plusieurs églises, une quinzaine d'églises, il me semble, en ce moment, à ce jour. Et c'est sûr que c'est un travail, il y a un travail à faire, mais quand même, il y a le désir d'être ensemble, il y a ce désir de œuvrer ensemble au sein de la ville. C'était un travail de pouvoir prier ensemble entre les pasteurs. Ça a commencé par des prières entre les pasteurs, puis nous avons élargi de prier avec le conseil d'église de chaque église. Et nous avons déjà vécu des prières ensemble inter-église, où ça nous a beaucoup bénis les uns les autres de se retrouver dans nos différences, mais d'être ensemble réunis dans la prière.
Et au niveau des paroissiens, parce que là, c'est la pastorale, donc c'est les pasteurs, comme le nom l'indique, qui se réunissent, qui peuvent discuter. Au niveau des paroissiens, comment ça se passe? Est-ce que vos paroissiens, les gens qui viennent chez vous, est-ce qu'ils sont demandeurs de rencontres avec des protestants plus traditionnels comme l'Église protestante unie de France, par exemple? Ou est-ce qu'il y a une certaine méfiance? Comment ça se passe au niveau de la base des paroissiens?
Ce que je constate à ce jour, c'est qu'il y a vraiment dans le cœur des désirs de retrouver l'autre, des désirs d'être avec l'autre, d'accueillir l'autre. D'ailleurs, au mois de mai, il y a eu ce qu'on appelle le Forum chrétien, qui a rassemblé plusieurs églises de différentes dénominations. Et quelle richesse d'être là où, cette rencontre, c'était les paroissiens qui étaient aussi invités à être là. C'était pas tous les paroissiens qui étaient là, mais nous avons élargi justement, ce n'était pas que les pasteurs qui étaient invités, mais les paroissiens. Et en sortant de cette rencontre, j'ai vu la joie dans les uns et les autres de pouvoir s'accueillir dans nos différences. Mmh. Et moi, je trouve ça bénissant.
Et il y a quelque chose de... D'après ce que vous dites, vous vous définissez comme protestante.
Oui.
Et parce que souvent, enfin quelquefois, je ne dirais pas souvent parce que j'en sais rien, mais il y a des églises évangéliques, des évangéliques qui se définissent comme chrétiens, mais pas comme protestants, qui n'aiment pas le terme de protestant. Vous, ça ne vous fait pas peur de vous définir protestante du tout?
Oh, nous, c'est vraiment la base, nous sommes protestants en premier. Oui, nous adhérons à ce qu'est le protestantisme. La foi, c'est la foi seule, c'est Jésus qui est le chemin qui amène vers Dieu. C'est ça le protestant, c'est la Bible qui donne l'autorité de notre foi et de notre Église. Et c'est aussi la grâce de Dieu.
Et qu'est-ce qui vous parle dans le protestantisme français? Parce que vous n'êtes pas d'origine française. Et pourtant, quand vous parlez des protestants, on sent que vous avez adopté, enfin, que vous êtes fille des... Alors, comment ça se passe, par exemple, avec l'histoire camisarde, avec l'histoire des... Comment vous les ressentez, ces camisards sévenols qui sont bien loin de Madagascar?
Oui. Donc, en fait, l'histoire du protestantisme français a commencé par ces persécutions, justement, des huguenots, ici, dans notre région. Et c'est beau de voir que les huguenots, en fait, quand ils étaient persécutés, ils étaient éparpillés partout, mais ils ont construit des banques, construit beaucoup de choses. C'est énorme, en fait. Certes, il y a eu la persécution, mais au travers de cette persécution, les protestants, les huguenots, ont construit beaucoup de choses dont nous bénéficions encore aujourd'hui. Et je trouve ça beau ce protestantisme français.
Et alors, vous m'aviez dit, vous pouvez en parler aux auditeurs, que vous célébrez ça.
Oui.
Alors, racontez à nos auditeurs, s'il vous plaît, parce que ça, c'est...
Alors, à une année dans notre église, pour un culte de dimanche, nous avons fêté le protestantisme. Donc, le culte a été focalisé sur comment était se passait un culte typique de ce temps-là, des Huguenots, dans la forêt.
Dans le désert.
Dans le désert.
Ouais.
Et nous avons changé tout le décor de notre église. Quand on est rentré, c'était pas l'église qu'on voyait d'habitude, on était dans la forêt. Et c'était beau, on s'est vraiment remis dans ce contexte-là. Et toute l'assemblée s'est habillée avec les habits de l'époque. Et pour moi, c'était un temps où c'était fort, parce que là, on a célébré ce protestantisme en se souvenant, en se mémorisant de ce qu'eux, ils ont vécu à cause de leur foi. Et même pour nous, ça a été comme aussi pour nous impacter où on est notre foi aujourd'hui, en se rappelant de ce qu'eux, ils ont vécu.
C'est-à-dire que vous les avez... adoptés comme vos ancêtres. C'est pas eux qui vous ont adoptés, mais c'est vous qui les adoptez. Et c'est très beau, ça, parce que le protestantisme se nourrit de l'apport des gens qui ne sont pas protestants d'origine, qui n'ont pas de tradition protestante. Et là, vous en êtes un exemple merveilleux. Et dans votre église, donc, tout le monde est sur ce même terrain. À peu près. Il n'y a pas de...
Oui. Il y a pas de, enfin, nous sommes tous, enfin la plupart, la majorité,
oui.
Nous sommes dans ce protestantisme. On se reconnaît protestant dans ce que nous faisons.
Et donc, vous avez parlé de Jésus, de l'Écriture seule, ce sont les thèmes qui vous parlent dans le protestantisme. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui vous intéressent plus particulièrement dans le protestantisme que dans le catholicisme, par exemple ?
Alors, le protestantisme, pour moi, doit être vécu dans la société, que ça soit visible dans la société, dans les œuvres, parce qu'on parle d'église, mais l'église aussi est vécue à l'extérieur. L'église est vécue, voilà, dans la ville. Par exemple, je peux vous citer des œuvres qui se passent ici sur Montpellier, des œuvres comme l'EPSO, qui veut dire épicerie solidaire, qui œuvre avec la ville, avec les assistantes sociales, pour aider les personnes nécessiteuses à pouvoir manger. Et ça, c'est une continuité pour moi de cette protestantisme, continuité de cette foi. On a, par exemple, une œuvre qui s'appelle Open Joy. C'est une œuvre qui va vers les prostituées, et qui se mettent à leur service, qui se mettent à leur écoute. Il y a aussi d'autres œuvres, d'aller en prison. Il y a un pasteur qui est aumônier, qui fait partie de notre église, mais qui va en prison et qui amène, il y a des cultes en prison en ce moment, tous les 15 jours, et les gens y viennent. Et moi, c'est ça, c'est cette continuité, c'est-à-dire que oui, on le vit dans l'Église, nous prenons soin des gens de l'Église, mais il faut que ça impacte aussi à l'extérieur. Voilà.
Merci beaucoup, Anne-Irina, pour ce très beau témoignage et peut-être cette leçon de vie avec les autres. J'étais très sensible à cet aspect de ce que vous décrivez, de cette foi qui s'ouvre aux autres, qui est très ouverte jusqu'aux ancêtres cévenols. Et c'est un très beau témoignage. Merci beaucoup. Et ben, je dis merci à nos auditeurs et je leur rappelle qu'ils peuvent nous contacter à un protestant peut en cacher un autre @radiofmplus.org. Merci et à la semaine prochaine.
Amen.
protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.